Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Identité culturelle sur Radio Okapi. Je suis Rosalie Zawadi et je suis très ravie de vous présenter ces magazines. Notre invité aujourd'hui est M. Onesfor Sematumba, analyste de l'évolution des sociétés. Il veut promouvoir la féminité positive. Celle-ci est, selon lui, comme la réponse à la perte de la masculinité des hommes, particulièrement au Nord Kivu. En effet, dans cette province qui fait face aux violences depuis maintenant 3 décennies, nombreux sont les hommes qui n'ont plus de ressources. Ce sont plutôt les femmes qui s'activent dans différents secteurs pour répondre aux besoins des ménages. Une situation qui place les hommes dans une position inconfortable. Pour notre invité, si dans les familles, les femmes ne vivent pas la féminité positive, l'opposé de la masculinité positive bien connue, elles pourraient achever par leurs paroles mal placées et leurs actions les hommes déjà à terre. Merci de rester avec nous car nous remontons dans les fondements de nos cultures pour développer ces thèmes. Bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma,
Okapi,
sur 95.5 FM.
Okapi.
Onesfor Sematumba, bonjour.
Bonjour Rosalie.
Alors Onesfor, vous observez la société et vous partagez des analyses. En ce mois de mars, vous parlez de la perte de la masculinité des hommes. Nous sommes dans l'émission Identité culturelle. C'était quoi les rôles de l'homme dans la société traditionnelle?
Eh bien, merci beaucoup Rosalie pour la question. La société traditionnelle était une société très bien organisée, très bien structurée, dans le sens où chaque membre de la société avait son rôle. Et c'était une société hiérarchisée. On avait les sages au sommet, il y avait le village, ensuite il y avait les familles, et puis il y avait les membres des familles. Alors, au sein de la famille, pour parler de cette famille nucléaire, papa, maman, les enfants, et peut-être aussi les petits-enfants, eh bien, quel était le rôle de l'homme? L'homme était considéré comme la tête de la famille, le chef. Tête et chef, même en français, c'est la même chose. Donc l'homme était la tête de la famille, c'est-à-dire celui qui devait pourvoir à tous les besoins pour que sa maisonnée puisse vivre. Pas survivre, mais vivre. C'est-à-dire, il devait tout faire pour que la maison ne manque pas de nourriture, pour que la femme et les enfants ne manquent pas d'habits, et dans la période moderne, pour que les enfants puissent aller à l'école. Et quand l'école a été payante, c'était lui qui fournissait les frais scolaires à ses enfants. Telle est la famille que moi j'ai connue, où l'enfant et la femme, l'épouse, demandaient l'essentiel au papa, au chef de la famille. Et le papa, le chef, le père, il incarnait dignement ce rôle parce qu'il était assez fort pour cultiver les champs qui lui permettaient de récolter, la récolte qu'il pouvait vendre, une partie et l'autre partie survenait aux besoins essentiels de la famille. Et bon, mais aussi il pouvait se divertir. Un homme heureux, après avoir rempli son rôle, eh bien, il avait son temps de divertissement. Tel était en fait le rôle du papa au sein de la famille que moi j'ai connue.
Et dans cette famille, c'était quoi le rôle de la maman?
Dans notre culture, on dit que la maman est le cœur de la famille. Autant le papa est la tête, autant la maman est le cœur. Et son rôle de cœur se traduisait symboliquement par le type de tâches qui lui incombaient. La mère, c'était elle qui était la pourvoyeuse du feu. C'est la femme qui apportait la chaleur du feu dans son foyer. Elle allait chez la voisine chercher du feu, mais aussi elle allait chercher le bois de chauffe dans les champs où dans la forêt. Il était impensable de voir un homme qui rentre des champs avec des fagots de bois. Non, ça c'est le rôle de la femme. Même quand l'homme avait contribué à fendre du bois, eh bien c'est la femme qui ramenait ce feu-là ou ces futurs feux à la maison. Ça, c'était le premier symbole fort. Sans feu, il n'y a pas de vie. L'autre symbole, c'était l'eau. La femme était la pourvoyeuse de l'eau. Elle allait au robinet, quand il y en avait, au ruisseau. Évidemment, les ruisseaux avaient aussi un rôle social extraordinaire parce que c'était l'endroit où on échangeait les informations. La revue de presse traditionnelle, c'était au ruisseau. Et donc, quand elle amenait l'eau, si l'eau manquait, en fait, à la maison, c'était une catastrophe. L'eau et le feu, voilà les ingrédients essentiels pour cuisiner la nourriture qui avait été apportée ou produite par le papa. Et donc, dans cette répartition des rôles, tu verras que finalement, les enfants étaient heureux parce que leur rôle essentiel en bas âge consistait à manger.
Et dans l'Est de la RDC, selon votre analyse, depuis 30 ans, à cause de la crise, vous constatez la perte de la masculinité des hommes. Quels faits traduisent cette réalité?
Plus que la perte de la masculinité, je serais même plus brutal et dire qu'on assiste à une sorte de castration de l'homme dans son foyer. Depuis 30 ans maintenant, l'homme est dans l'impossibilité d'assumer son rôle de père, son rôle de tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À cause de l'insécurité, l'homme n'ose pas se jeter sur les routes pour aller chercher des vivres pour sa famille. Et courageusement, c'est la femme qui a fait tomber le pagne et a porté des pantalons pour monter sur des camions et braver le chemin, joncher de toutes sortes d'obstacles pour essayer de ramener du makala, de massissi ou même de plus loin, de l'Oubéro, pour ramener des haricots, pour vendre et essayer de trouver, essayer de subvenir aux besoins de sa famille. Et en le faisant, en fait, elle supplée, c'est vrai, elle supplée l'absence du père, mais quand cette suppléance devient permanente, eh bien, c'est elle qui devient la tête de la famille. Et donc, le papa qui ne peut même pas valablement jouer le rôle des cœurs de la famille, eh bien, il est réduit, à sa plus simple expression. Donc, il passe le temps en train de jouer avec ses voisins de quartier, aux zombies, aux mangouras, aux billards. Ce qui fait que, quand la femme revient, toute fatiguée, mais avec la moisson de la journée, eh bien, c'est elle qui est la tête, qui assume l'impérium. Et l'homme, n'étant plus homme, qu'est-ce qu'il est? Il est castré, il est dépourvu de ses attributs virils, au moins symboliquement. Parce qu'on n'est pas seulement homme, parce qu'on est viril au lit, on est homme parce que on assume ses responsabilités. Et cette responsabilité est de plus en plus récupérée par la femme, ce qui fait que les rôles sont complètement inversés. Et voilà, on assiste à ce phénomène malheureux où les hommes sont vraiment réduits à ne plus parler en famille, à ne plus gronder les enfants. Tu ne grondes pas un enfant à qui tu n'es pas capable d'acheter un cahier. Tu ne peux pas gronder un enfant quand, lorsque il te demande un stylo, tu lui dis d'attendre le retour de maman. Donc, tu es un enfant parmi tous les autres. Et voilà. Donc, il faut être moupole, comme on dit. Il faut rester calme, se laisser oublier dans sa propre maison. Voilà où nous en sommes 30 ans après. La violence a considérablement déstructuré la famille et en le faisant, elle a déstructuré complètement et je crains même durablement le fondement même de notre culture.
Dans ces conditions, l'homme qui doit transmettre les valeurs de courage, par exemple, à ses fils, il ne sait pas le faire.
Mais il ne peut pas le faire parce que sa situation actuelle n'est pas l'incarnation du courage. La femme lui a ravi le courage.
Ce n'est pas la femme, c'est l'insécurité qu'on vit depuis les années 90.
Oui, tout à fait. Mais il y a aussi le fait que, justement, l'homme n'a pas eu le courage de continuer à braver le danger. Donc l'homme est le plus exposé, par exemple, au recrutement forcé, par exemple, à des travaux du genre portage, etc. S'il tombe sur des groupes armés.
Et là, c'est avant le M23.
Avant le M23, quand les chemins étaient encore possibles.
Oui.
Parce que les dangers sur les routes n'ont pas commencé avec le M23. Donc, il y avait toujours l'insécurité. Et même aujourd'hui, avec la présence du M23, on sent donc que l'homme n'a pas pu incarner le courage. Et on ne peut pas transmettre une valeur qu'on n'a pas. Vu sa condition, parlons plutôt de sa condition, il est mal placé pour donner des leçons. Donc, il ne peut pas dire aux enfants, bon, écoutez, dans la vie, on se comporte comme ci, comme ça, quand lui n'est pas capable de se comporter de la même manière. Donc, le courage est en quelque sorte sociologiquement héréditaire. L'enfant, il suit les traces de son papa. Maintenant, comment l'enfant peut-il suivre les traces d'un papa qui est assis? Parce que les papas d'aujourd'hui, ils sont assis. Donc, il faut qu'ils marchent et qu'ils marchent dans la voie du courage pour que l'enfant puisse le suivre avec une roue minuscule ou avec un arc et une flèche minuscule quand le papa, lui, a le vrai arc et les vraies flèches pour dire, voilà comment on se comporte. Mais maintenant, nous sommes des papas assis en train de jouer aux zombies et aux cartes et en train de discuter de la politique sans la maîtriser, à discuter des réseaux sociaux, quand nos femmes se battent dans le marché poussiéreux de Biréré en train de chercher ce que nous allons manger le soir.
Et vous dites que la force de l'homme était dans les faits qu'il pouvait se fâcher, mais qu'aujourd'hui, il n'a même plus cette opportunité-là.
Écoutez, Rosalie, peut-être que vous ne savez pas ce que ça coûte d'être fâché. Se fâcher demande de l'énergie. Et quelqu'un qui est dans la condition de chômage, qui n'assume plus ses responsabilités à la maison, à qui les enfants disent-tu, papa, est-ce que tu... Non pas parce que c'est vraiment de la familiarité familiale, mais parce que c'est du mépris. Cet homme à qui la femme s'adresse de façon ironique pour lui rappeler son inutilité, est-ce que cet homme a la condition physique de se mettre en colère, de perdre le peu d'énergie qu'il a en se mettant en colère? Ça, c'est de un. Et même s'il le pouvait, en fonction de quelle légitimité va-t-il se mettre en colère? Quel est le levier qu'il a pour menacer l'enfant? Parce qu'il faut menacer l'enfant. Je ne dis pas qu'il faut le frapper, mais il faut par exemple lui dire que si tu continues comme ça, eh bien, tu ne vas pas manger ce soir. Mais l'enfant va dire, mais papa, la nourriture, ce n'est pas toi qui la portes à la maison. Et tu ne peux pas dire, je ne vais plus payer pour toi à l'école. Mais on sait qui paye, c'est la maman. Et donc, tous les ingrédients pour se fâcher, une sainte colère. La colère du père, c'est une colère sainte. C'est comme la colère des dieux. C'est une colère sainte. Quand le papa se fâchait à notre époque, on disait, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et la maman à côté, elle appelait l'enfant discrètement pour lui dire, hé, tu as mis papa en colère. Il faudra trouver le meilleur moment, pas maintenant, pour demander pardon, pour rétablir la relation, pour que la menace qui est partie de la colère du père soit réduite et que finalement il y ait une sorte d'amnistie. Ça se terminait toujours en amnistie parce que la colère du père est aussi une colère passagère, parce que c'est une colère pédagogique. Aujourd'hui, tout cela est en voie de disparition.
Congo, Congo de Mboka, Mboka ngomo kengeli koi, Mboka ngomo kengeli léopard. Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Congo aveni ebongi to sala ebongi to sala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala, tebongi to sala Moto nyo so hata mwana Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku Congo ya bwanya, kasa ya mbila Congo ya makasi, moto ya nkoi Congo, Congo ne mboka Congo, mboka ya bankoko Congo, boko mwana pamba Lobi, mboko lula yango
C'était la chanson Congo Avenir de Taboulei Rochero pour un Congo meilleur. Vous écoutez les magazines Identité culturelle sur Radio Okapi. Après avoir présenté les problèmes de la perte de la masculinité des hommes, nous poursuivons avec notre invité sur l'aspect des solutions. Et parmi les solutions au niveau de la famille, vous dites qu'il faut aujourd'hui promouvoir une féminité positive.
Exactement. Parce qu'on nous parle depuis quelques années maintenant de masculinité positive. Ça, c'est un concept qui vient du Nord, je veux dire de l'Ouest, de l'Occident, des États-Unis, qui est le prolongement de ce mouvement du genre. Bon, il faut que les hommes puissent participer, contribuer à la reconnaissance des droits des femmes. Je n'aime pas trop le terme émancipation, mais c'est dans ce sens. Il faut que la bataille pour les droits des femmes ne soit pas réservée aux seules femmes. Quelqu'un, un homme, j'espère que j'en suis un, devrait avoir cette masculinité positive, qui comprend que pour que l'homme soit fort, il n'est pas nécessaire de réduire sa femme, ou la femme, ou la sœur, ou toutes les femmes.
Oui.
Alors, c'est ce concept que moi, je détourne en disant qu'à l'est du Congo, et peut-être au Congo en général, on a plutôt besoin d'une féminité positive. C'est-à-dire quoi? Que les femmes ne profitent pas des conditions actuelles, qui sont des conditions conjoncturelles, ce ne sont pas des conditions structurelles. Peut-être qu'un jour, l'homme redeviendra l'homme, H majuscule. Et bien qu'il ne faut pas que la femme en profite pour écraser l'homme. L'homme est déjà par terre. Il ne sert à rien de le lui rappeler régulièrement. Madame, quand vous rentrez à la maison, ça ne sert à rien de lui rappeler qu'il ne sert à rien. Bon, il est le père, c'est vrai, mais c'est facile biologiquement de devenir père. Les animaux le font très bien, plus souvent d'ailleurs que les hommes. Et donc, un homme qui est déjà réduit à ce que je viens d'écrire, il est presque criminel de lui rappeler chaque soir qu'il ne sert à rien. calculé zoukolié, hein, voilà, ce sont des termes courants, c'est-à-dire réveille-toi et mange. Et chaque fois que la femme passe auprès de son mari, elle lui rappelle de façon indirecte, et c'est plus méchant même. On dirait que moi, je suis veuve, alors qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison. Bon, qu'est-ce que j'ai fait pour tomber sur un homme pareil? Non. Je pense que la femme doit profiter de la force qu'elle peut avoir pour essayer de tenir le mari par la main et essayer de le remettre debout. Parce que la société en général, la structure sociale actuelle, la conjoncture a tendance à le maintenir dans la boue. C'est l'homme, c'est le chômeur, c'est le travailleur qui gagne à peine, je ne sais pas, 100 000 francs par mois, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Donc même quand il va au travail, il en revient plus ou moins honteux d'avoir finalement passé du temps perdu, du premier jour au dernier jour du mois. Et donc, voilà, ce que la féminité positive serait, c'est d'essayer de taper sur l'épaule du pauvre homme pour la femme en lui disant « Mon mari, c'est juste une mauvaise passe. Tu es toujours l'homme formidable que j'ai épousé et ne t'en fais pas. Nous allons nous en sortir. Nous allons y arriver. » C'est ce que moi j'appelle la féminité positive.
Donc c'est un appel à toutes les femmes qui travaillent par exemple dans les secteurs formels ou informels de reconsidérer la place de l'homme dans les sociétés traditionnelles qui doit être maintenue aujourd'hui.
Exactement. Donc il ne faut pas que la femme, les cœurs du foyer, les cœurs de la société contribuent à plus de déstructuration de cette société, de ce foyer, en minimisant le rôle de l'homme, de son homme et de tous les hommes.
Et aussi les hommes, dans cette féminité positive à promouvoir. Quel est le rôle de l'homme? Même si on comprend, par exemple, il est déplacé, il a laissé tous ses biens, ou alors il est à Goma, il n'y a pas de boulot. Qu'est-ce que lui aussi devrait faire pour aider sa femme, pour essayer de maintenir l'harmonie dans la famille?
Comme je le disais, le fait qu'il ait perdu ses repères sociologiques fait de lui presque un être qui subit. Donc d'abord, il se sent très mal dans la peau. Je vous jure que aucun homme normalement constitué n'apprécie d'être sous la dépendance de sa femme. Même quand la femme est très gentille, l'homme développe un complexe terrible d'être assisté par la femme. La femme peut le faire de très bonne foi, elle vient avec un costume tout neuf, voilà, chérie, pour ton anniversaire. Ok, l'homme, il va apprécier, mais il va dire, écoutez, ça, moi, personnellement, je suis incapable de me le payer. Est-ce que ce n'est pas le message que le veut faire passer? Bon, on peut formuler les vœux que l'homme, malgré les conditions difficiles que nous traversons, qu'il ne baisse pas totalement les bras. Et surtout, qu'il ne transfère pas ses frustrations sur le reste de la famille. En fait, tu avais raison de le dire, ce n'est pas la femme qui est à la base de la castration actuelle de l'homme, c'est la conjoncture actuelle. Je suis tenté de dire la femme n'y est pour rien, mais je suis aussi en train de dire qu'il ne faut pas que la femme essaie d'en profiter. Mais il ne faut pas non plus que l'homme tombe dans une sorte de béatitude là, où il dit, bon, écoutez, voilà, il ne reste plus que la prière. Non, l'homme doit se battre, continuer à se battre et en disant, bon, écoutez, je suis peut-être déplacé, mais si je peux encore marcher, je peux transporter quelque chose pour avoir quelques revenus. Donc, ne pas être complexé par la capacité des biens qu'on amène à la maison, parce que ça serait encore plus grave si on restait carrément handicapés.
Et dans tout ça, c'est quoi le rôle des dirigeants?
Belle question. Et je suis en train de me demander, en fait, ce que ça signifie aujourd'hui être dirigeant. Est-ce qu'on est seulement dirigeant? Est-ce qu'on est seulement autorité? Est-ce qu'on est chef? Et qu'est-ce que ça signifie être chef à la tête d'une société où tous les autres chefs, il n'y a pas de chef de famille, sont des lambeaux? Qu'est-ce que ça signifie être chef si tous les hommes ne peuvent pas apporter leur part d'énergie personnelle à la constitution de l'énergie collective, de l'énergie nationale? Qu'est-ce que cela signifie être chef? Soyons concrets. Qu'est-ce que cela signifie être gouverneur d'une province où on a près de 6 millions de déplacés, des femmes et d'hommes qui sont devenus dépendants de la mendicité, alors qu'ils avaient des champs, alors qu'ils avaient du bois de chauffe? Qu'est-ce que ça signifie être chef si les femmes qui devaient aller jouer leur rôle de pourvoyeuses de feu et d'eau se font violer sur les routes parce qu'il y a des bandes armées dans les forêts où se trouvent les ruisseaux et le bois de chauffe? Autant de questions qui devraient interpeller nos chefs. C'est vrai qu'ils vivent, j'ai l'impression qu'ils vivent dans une bulle. Nous les voyons passer en trombe dans des jeeps, précédés par des escortes militaires, avec des armes. En fait, on ne sait pas de quoi ils ont peur. Mais on peut se demander s'ils se rendent compte de la vulnérabilité actuelle de la société qu'ils devraient diriger, de l'énergie qu'ils devraient impulser. Et donc, des réponses qu'il faut absolument trouver. Et on ne va pas construire une nation, un pays, une communauté faite de déplacés, faite de femmes juchées sur les fousseaux quand les hommes dorment sur les nattes à la maison, pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils ne peuvent aller nulle part. On ne veut pas construire une société où les enfants se moquent de leurs parents. Parce que si les enfants d'aujourd'hui se moquent de leurs parents, les dirigeants d'aujourd'hui auront tendance à se moquer de leurs dirigeants. Et là, on aura semé nous-mêmes cette culture. Mais la grande question, évidemment, c'est par où il faut commencer. Et là, je dois avouer que je n'ai pas la réponse à ça. Mais si nous avions déjà une réponse au niveau de la famille, dans ce que j'appelle féminité positive, et cette résilience que j'attends des hommes pour qu'ils ne tombent pas complètement comme des lingalinga, et qu'ils puissent avoir la force de se mettre en colère, non pas contre leurs enfants, mais contre leur situation. Il faut refuser. Il faut dire que ce n'est pas normal. Il faut dire qu'il faut que ça change. Mais est-ce que nous utilisons à bon escient les outils que nous avons pour faire changer la société? Est-ce que nous utilisons à bon escient ces outils? L'un de ces outils, à mon avis, c'est le vote démocratique. Nous venons de faire des élections. Ceux qui étaient dans les camps de déplacés, certains ont voté. D'autres qui sont dans certains territoires n'ont pas voté. Mais quel usage avons-nous fait de ce bulletin de vote pour essayer d'impulser un changement dans notre société de façon crue? Est-ce que nous avons voté pour des dirigeants ou pour leurs promesses ou leurs petits cadeaux? Et dans ce cas-là, malheureusement, je pense que nous avons tous notre propre responsabilité à tous les niveaux. Les dirigeants sont dirigeants parce qu'ils sont là, hein, mais ils ne sont pas là parce qu'ils sont nés là-bas. Nous les y avons parfois envoyés. Donc, ne pleurons pas trop.
20 numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé aujourd'hui de la féminité positive comme début de la réponse au problème de la perte de la masculinité des hommes. Merci à notre invité, Onesforce Matumba, analyste de l'évolution des sociétés. Cette émission a été produite sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez la réécouter sur notre site les www.radiookapi.net. Je suis Rosalie Zawadi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite de passer des bons moments en compagnie des programmes de Radio Okapi. Au revoir.